France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Alex Jordanoff, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Les guerres de l'ombre de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et avec certains de ses agents, vous revisitez des affaires de terrorisme qui ont marqué ces dernières années en vous basant sur la parole de ces policiers de terrain qui d'habitude ne parlent pas. Alors on va commencer par ça. Pourquoi à vous, ils vous parlent ?
C'était un concours de circonstances. J'ai rencontré un de ces gradés de la DGSI dans un cabinet d'avocats. Et on parlait de tout. Et à la fin de la conversation, il m'a dit « Mais en fait, on peut aussi te raconter notre vie, nos problèmes. » C'était une forme de...
Un besoin.
Un besoin de parler des problèmes qu'ils rencontrent tous les jours dans leur métier.
Alors vous revisitez, comme je le disais, plusieurs affaires de terrorisme. Alors il y a celle-là qui a été une des premières qui a beaucoup marqué, c'est l'affaire Mera. Et vous racontez que 4 policiers se trouvaient devant chez lui alors qu'il venait de téléphoner à France 24, ce fameux coup de téléphone qu'il a donné. Il voit les policiers et les policiers informent leur hiérarchie de ce que Mera est là. Et donc ce que vous laissez entendre, c'est qu'on aurait pu arrêter Mohamed Mera avant qu'il ne se retranche dans ce bunker qui était son appartement.
Oui, c'est presque ça. En fait, le périmètre est bouclé. Ils doivent interpeller Mera. Donc, tout autour, il y a plusieurs cercles de policiers. On attend la décision d'interpellation qui a déjà été prise.
Mais à ce moment-là, le dispositif est très discret. C'est-à-dire que Mera n'est pas censé le savoir.
Il n'est pas censé le savoir, mais l'immeuble de Mera est très petit. En fait, c'est 2 petits bâtiments. C'est pas une cité comme on a l'habitude d'en voir. Tout le monde se connaît. Il voit que ces gens-là ne font pas partie du décor naturel de son environnement. Il leur fait un signe de la tête, genre « Ouais, bonjour, allez, on va y aller maintenant ». Ils transmettent quand même l'information, voilà, l'objectif est dans le SOUM, c'est-à-dire le véhicule
de surveillance.
De surveillance, où il y a leur chef d'équipe, on leur répond « Non ».
C'est-à-dire, ils passent l'information à leur hiérarchie, qu'ils ont vu Mera, que Mera les a vus, et qu'ils sont en situation de pouvoir l'interpeller.
Oui, on leur dit « Non, c'est pas l'objectif, non, il ne correspond pas ».
Mais il ne correspond pas, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'ils ne veulent pas l'interpeller, c'est pas lui. D'après les agents sur place, dans cette chaîne de décision, on n'a pas voulu l'interpeller, on a eu peur.
Mais ce qu'on peut se dire, si votre interprétation est juste, c'est que Mohamed Mera, dès qu'il rentre chez lui, se barricade parce qu'il sait déjà que la police est à l'extérieur, avant même que le raid arrive.
Ce qu'on sait, c'est qu'il sait qu'ils sont là, il les a vus, il sait qu'ils vont intervenir, il les entend dans l'escalier, c'est là qu'il ouvre la porte et il se met à canaliser. On n'ouvre pas la porte comme ça, par hasard, à 3h du matin, en espérant qu'il y ait une unité du raid dans sa cage d'escalier.
Alors, il y a une deuxième affaire que vous racontez dans votre livre, à partir de ces indiscrétions du terrain, c'est celle qui concerne un certain Mohamed Niaz. Alors, faut expliquer qui est Mohamed Niaz.
Mohamed Niaz était une personne d'intérêt pour plusieurs services occidentaux.
Alors je précise qu'on est en 2011.
Ouais. Donc ce qui se passe, c'est-à-dire que les officiers de liaison des pays alliés envoient une requête et les agents français reçoivent une saisine. C'est-à-dire qu'un ordre de surveiller cette personne, éventuellement de l'interpeller, de trouver le plus d'éléments possibles sur qui est cet homme-là, qu'est-ce qu'on peut en faire.
Mais donc, il vient en France, il vient du Pakistan.
Il vient au Pakistan, dans le but précis de recruter des combattants
djihadistes. Ouais. Alors, dès son arrivée à Roissy, il a été signalé, les services de renseignement savent qu'il vient. Et là, on a des faux douaniers, c'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif de surveillance qui se met en place.
Ils savent quand il arrive, ils le récupèrent à l'aéroport, on fait mine d'inspecter ses bagages. En fait, c'est des agents de la DGSI qui photographient, répertorient tout ce qu'il a sur lui, c'est du recueil d'informations.
On met une caméra chez lui, même plusieurs.
On met un dispositif de surveillance 24 heures sur 24, oui.
Et là, on va se rendre compte qu'effectivement, il organise des entraînements en région parisienne, au djihadisme. Alors, vous racontez cette anecdote, il s'entraîne à égorger des lapins qu'ils vont acheter au supermarché.
Oui, ils l'ont fait une fois, ça.
Enfin, au marché, plutôt.
Oui, ils avaient acheté des lapins et un des spécialistes d'égorgement leur montrait comment on faisait pour égorger les animaux.
En région parisienne. Et puis, vous faites mention de cette conversation entre Niaz, donc, et un ami des frères Kouachi. Et cet ami dit, vous êtes trop light pour nous, on prépare un gros truc ici en France pour très bientôt.
Oui, ça a été signalé.
Ça veut dire, c'était Charlie Hebdo, hein.
C'était Charlie Hebdo, effectivement.
Et ce message, il remonte et qu'est-ce qui se passe?
Il remonte, mais ils en ont beaucoup, des messages comme ça. Et des fois, ça se perd. Vous savez, il y a plein d'interceptions qui ont été faites, même avant le Bataclan. On a intercepté des textos parlant d'attaques de terrasses. On a retrouvé un téléphone pendant les fouilles dans les prisons. On confisque des téléphones. Le renseignement pénitentiaire regarde ce qu'il y a dedans. Et il y avait des messages annonçant des attaques de terrasses de café. Mais bon, soit ils sont débordés, soit ça se perd en route.
Alors, vous expliquez quelles sont les techniques de surveillance, sans entrer dans tous les détails. Vous racontez que on place par exemple des micros, des caméras cousus dans des appuis-têtes fondus dans le plastique des portières des djihadistes qu'on surveille.
Ouais. Les djihadistes sont beaucoup plus malins qu'on ne le croit. Ils ont des brouilleurs, ils ont des techniciens, oui, ils ont des détecteurs de micros, ils ont tout un tas de techniques pour esquiver les surveillances.
Vous racontez que dans des mosquées d'ailleurs, il y a des brouilleurs de portables.
Bah oui, alors ça c'est un grand classique. Hein. Il y a quasiment toutes les mosquées répertoriées sensibles ont des brouilleurs de portables. Ouais. Pour des raisons évidentes, évidemment, ils ne veulent pas qu'on sache ce qui s'y passe.
Oui, ou qu'on puisse surveiller de l'intérieur et rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Le pire est parfois évité par hasard. Vous racontez l'histoire de ce fichier S dont la mère habite juste en face de l'Élysée.
Ah, c'est une des innombrables anecdotes. Ils suivent un objectif, un monsieur d'origine portugaise converti. Donc ils le suivent dans Paris, il gare sa voiture et il va chez sa mère qui est gardienne d'immeuble. Et il se rend compte que la gardienne d'immeuble a les clés de toutes les chambres de bonne au dernier étage avec vue sur la cour de l'Élysée. Alors il panique à bord, évidemment, c'est quand même une centaine de mètres de la fenêtre au tapis rouge, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Après, on ne sait pas s'il y avait un projet ou pas.
Hein. Non, c'est pas si.
Ce sont des circonstances
là,
qui auraient pu permettre.
Ça donne lieu.
Ça fait froid dans le dos rétrospectivement.
Mais imaginez Poutine sur le tapis rouge et des gens mal intentionnés avec des fusils à lunettes. Bon, bah, voilà.
Bon, bah, tout ça, donc, c'est à lire dans votre livre. Merci, Alex Jordanov. Alors, je rappelle que votre livre s'intitule Les guerres de l'ombre de la DGSI et je précise qu'il est publié aux éditions du Nouveau Monde.